France Musique.
Lui, enregistré à Tokyo en 1987 pour un concert qui était l'un des premiers dans lequel on le découvrait. Il avait 15 ans donc, encore Yevgeny Kissine. L'étude tableau en fa mineur de l'opus 33 de Serge Rachmaninov était joué ici par Yevgeny Kissine le 12 mai 1987 au Century Hall de Tokyo. C'était son tout premier enregistrement officiel. Enfin, soyons clairs, là c'était du live. Il devait enregistrer quelques temps après deux albums de studio qui sortirent avant celui-ci. Mais enfin, passons. 1987, date importante. Yevgeny Kissine a 15 ans. 15 ans et demi, comme on dit parfois à cet âge-là. Tous les amateurs de piano à l'époque, je m'en souviens très bien, se racontaient alors ce qu'était l'histoire à peine naissante de ce miracle du clavier. Faut dire qu'il avait commencé très jeune, Kissine, dès l'âge de 2 ans. Il était entré à 6 ans à l'Académie Gnessine de Moscou. Il avait étudié avec Anna Pavlovna Kantor, qui devait devenir son grand professeur. Premier récital moscovite à l'âge de 10 ans. Début en concerto dans Mozart l'année suivante. Et puis encore une année de plus et deux concertos pour piano de Chopin au programme du même concert. Bref, à 15 ans, c'était déjà un prodige. Et en plus, et ça c'est encore mieux, un superbe piano.
Thank you.
La Leggerezza, étude de concert de Franz Liszt, jouée ce 12 mai 1987 à Tokyo par Yevgeny Kissin, pas aussi impeccable, on l'a entendu ici, qu'il le sera dans la suite de sa carrière. Mais rappelons-le, il n'a là encore que 15 ans, Wunderkind à la russe, avec déjà sa personnalité qui est là, Yevgeny Kissin, ce son puissant, écrasant même parfois, ses couleurs en gerbe, et puis cette vraie éloquence qui est la sienne. Puis malgré tout, malgré les quelques erreurs techniques qu'on a pu entendre ici ou là, une virtuosité qui est quand même absolument ébouriffante. Le répertoire déjà dominante russe, on va le retrouver ici par exemple dans une mazurka et une étude d'Alexandre Scriabine.
Thank you.
Alexandre Scriabine, une mazurka de l'opus 25 et une étude de l'opus 42 étaient jouées ici par Evgeny Kissine le 12 mai 1987, l'occasion de ce concert Tokyo Heat absolument historique, reporté en 1990 sur disque par Sony, premier grand moment de la reconnaissance internationale de Kissine. Notre disque du jour, qui est à retrouver et à podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Kissine a très rarement joué la musique de Jean-Sébastien Bach en concert, mais il s'est toujours dit fasciné par lui. Bon, vous allez me dire qu'il n'est pas fasciné par la musique de Bach. C'est tout à fait juste. La preuve par deux compositeurs. Tiens, le premier, alors ça prend la forme d'une devinette. Dites-moi qui peut rhabiller un choral de Bach avec des habits aussi somptueux. Vous avez 5 minutes 30 pour vous décider. Oh, c'est pas facile, hein. Mais bon. C'est Ira Levine qui dirigeait ici cette version assez étrange, mais belle quand même, du choral BWV 622 de Jean-Sébastien Bach. Oh mensch, et de qui était-elle cette version? Ben, vous a pas beaucoup inspiré les uns les autres. Hein. J'ai pas eu 50 réponses. Hein. Vous m'auriez dit, je sais pas, Stokowski, Rachmaninov, je vous aurais dit, oui, ça se défend. Mais j'ai une réponse bonne, la seule en fait, ben, c'est celle de Brigitte, qui me dit, je pense à Max Reger. Ben, vous avez raison, cet arrangement, cette orchestration, on la doit à Max Reger. Alors, non, je dois dire, Brigitte, vous me sciez les pattes là, parce que moi, j'aurais jamais trouvé Max Reger en écoutant ça. Hein. Alors, soit vous avez Shazam à la maison, et vous êtes une petite menteuse, soit vous avez une oreille, mais alors là, je suis béat d'admiration. Bon, dans tous les cas, je vous envoie un disque pour vous remercier et pour vous féliciter parce que comme il faut le faire, quoi. Vous vous rendez compte, arriver à trouver Max Reger, c'est un truc pareil. Bon, allez, une autre arrangement de Jean-Sébastien Bach dans ce qui suit. Là, c'était rhabillé très chaudement hein, pour passer un long et rigoureux hiver. Ce qu'on va voir après, c'est tout à fait autre chose. De la musique de Bach toujours, donc, et toujours un choral. Mais cette fois-ci, c'est développé par Knut Nystedt, qui est un grand chef de chœur, mais aussi un compositeur norvégien. Il a présidé pendant des années, pendant des décennies, même aux destinées du chœur de soliste norvégien. Et pour son concert d'adieu 1990, il écrivait cette pièce intitulée Immortal Bach, d'après le choral Comme Zeus Ortote, viens, douce mort. C'est une manière de donner ses adieux à son cœur, au monde en général. Enfin, au monde en général, il devait mourir, heureusement pour lui, bien des années après Knut Nystedt. On va entendre ceci, interprété donc par le chœur des solistes norvégiens.
Thank you.
L'arrangement sur le choral Osus Orthote de Jean-Sébastien Bach, c'était signé Knut Nystedt, le chœur des solistes norvégiens et l'ensemble Allegri, amené par Grete Pedersen et Helgeroth.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
En ce début d'année, il vous faut une bonne lecture. Ah ben tenez, voici le numéro de janvier d'Opéra Magazine. Il y a beaucoup de choses dedans, comme toujours, dans ce mensuel de l'actualité, des critiques, des comptes rendus de spectacles, mais surtout, elle est d'ailleurs en couverture, un grand entretien avec la soprano Vanina Santoni. On l'a vu il y a peu en Comtesse des Noces de Figaro au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a été d'ailleurs retransmis et télévisé. C'était absolument superbe, ce spectacle. Et c'est drôle parce que, en un temps où le primat du metteur en scène à l'opéra est fortement remis en question, Vanina Santoni, elle nous parle justement du travail avec le metteur en scène James Gray, qui est venu très modestement, malgré sa notoriété de réalisateur de cinéma, il est venu presque sur la pointe des pieds pour monter ses noces scrupuleusement et bellement d'ailleurs à la classique. Elle nous raconte par exemple qu'il voulait savoir comment travaillaient les musiciens, ce qui faisait la différence entre eux, ce qui était selon eux, c'est-à-dire les chanteurs, la différence entre un mauvais et un bon metteur en scène. Elle dit, de temps en temps, lorsque les questions devenaient intimes, il nous emmenait dans un coin du plateau. C'est ce que nous appelions aller au confessionnal. En fait, il voulait trouver l'authenticité du personnage à travers notre propre vérité, la vérité des chanteurs, et pas celle amenée directement par le metteur en scène. Elle nous raconte plein d'autres choses, Vanina Santoni, sur sa propre carrière à venir. Nous dit par exemple qu'elle participera à une création de Marc-André d'Albavie d'après le soulier de satin de Claudel. Ce sera pour 2021 à l'Opéra de Paris et c'est prévu déjà, cet opéra, en création pour durer 5h30, plus que le crépuscule des dieux. Bon, enfin, ils ont raison, hein. Quand tout semble craquer de partout, il faut voir grand, il faut voir très grand, il faut voir noble.
Thank you.
L'air de la comtesse au troisième acte des Noces de Figaro de Mozart, c'était Vanina Santoni, l'ensemble Le Palais Royal dirigé par Jean-Philippe Sarkoz, extrait d'un concert porté sur disque, concert de 2015 sous le titre Le Temps des Héros. Vanina Santoni, vous la retrouverez donc en couverture d'Opéra Magazine pour ce mois de janvier, et puis elle sera aussi en récital avec orchestre aux côtés de Saïmir Pirgou au récital en duo, demain à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Surtout comme tous les concerts ces temps-ci avec les grèves, hein, vous vérifiez avant d'y aller un petit coup d'internet pour être certain que le concert est bien maintenu. Il devrait y avoir au programme Mozart, Verdi, Donizetti, Gounod, Massenet et quelques autres encore, Vanina Santoni et Saïmir Pirgou. Demain, Théâtre des Champs-Élysées. Allez, on va poursuivre avec du Mozart. Vous vous souvenez qu'il y a peut-être quelques semaines, 2, 3, 4, je ne sais plus, je consacrais un petit portrait au chef d'orchestre Geoffrey Tate et on l'écoutait à l'occasion aux côtés de Mitsuko Uchida dans un concerto de Mozart. Ça m'a donné envie de revenir vers leur travail à tous les deux qui était vraiment superbe. Voici par exemple ici le premier mouvement du 5e concerto, les Ajacets nommés Mitsuko Uchida en soliste, Geoffrey Tate à la baguette. Le premier mouvement du 15e concerto pour piano de Mozart, c'était Mitsuko Uchida, l'orchestre de chambre anglais dirigé par Jeffrey Tate.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Christian Gerhaher est un des plus beaux barytons aujourd'hui en activité, voix superbe pour le lead en particulier, mais il fait des merveilles aussi en oratorio ou à l'opéra, mais enfin dans le lead, faut dire. Ça fait des années qu'il le travaille, en particulier avec un complice, Gerold Huber. Leur dernier disque, eh bien, Gerold Huber, justement, est au piano, et Christian Gerhaher a choisi la musique de Schumann, ce grand cycle des Myrten.
Wie Duft der Rose. Ich send ihn an ein Rosenangesicht. Ich sende einen Gruß wie Frühlingskose. Ich send ihn an ein gedenkest an den Freudenlosen, so wird dir Himmel meiner Nächte Licht, so wird dir Himmel meiner Nächte Licht. Wenn uns droben aufgenommen Gottes Sonne entgegenschaut, wird die Liebe den
Ainsi s'achève le grand cycle des Myrten de Robert Schumann, d'après la poésie de Friedrich Rückert. C'était chanté ici par Christian Gerhaher avec Gerold Huber au piano. Quand on se pose la question de savoir ce qui fait un grand Liedersänger, un grand chanteur de Lied, on s'en rend bien compte ici. Il ne s'agit pas de chanter, il ne s'agit pas de déclamer à tout craint. Il faut avant tout dire le texte, être attentif au texte, à son contenu, à ce qu'il nous raconte, bien évidemment, mais à la manière dont il existe, c'est-à-dire avant tout des mots, des syllabes, des sons, des voyelles et des consonnes, simplement qu'on met les uns à côté des autres, à pas n'importe comment. Non, il faut avoir du sens à mettre derrière, de l'intention, de l'intelligence aussi, à la fois de la musique et du texte. Et on sait que Christian Gerhaher, il a ça ô combien. On va fermer cette émission avec vraiment toute autre chose. Un extrait de la première symphonie de William Walton, musicien qu'on a tendance à considérer comme un peu académique, comme s'il faisait encore partie du 19e siècle, mais pas du tout. Walton était pris dans le nôtre. Il est né en 1902 et mort même en 1983. Il n'y a pas si longtemps que ça. Cette première symphonie, en revanche, c'est presque une œuvre de jeunesse. En 1935, il avait passé les 30 hommes, et comme il est venu parfois à la musique de manière un peu compliquée, surtout dans cette période-là, il rencontrait, dit-on, des problèmes sentimentaux absolument insurmontables pour lui. Bref, ça n'empêcha pas de faire une première symphonie qui est inspirée de plein de choses, et en particulier de la passion qu'il habite, mais aussi peut-être de ce que la musique en son temps fait de plus avancé. Si on entend un peu de Stravinsky là-dedans, on n'aura peut-être pas nécessairement tort. Voici le scherzo de cette première symphonie de William Walton, dirigée par Sir Colin Davis. Thank you. Cet homme-là n'a pas entendu les noces, je veux bien être pendu, mais bien passé aux couleurs anglaises. Hein. C'était William Walton qu'on entendait ici, avec ce scherzo de sa première symphonie, l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Colin Davis. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin, Emmanuel Morse d'Incan. Je vous retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau Relax dès 15h, mais aussi sur notre site internet. La page de Relax est ouverte à tous les vents pour consulter notre programmation et nous réécouter jusqu'au bout de la nuit. C'est en passant par francemusique.fr. Très bonne soirée à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.